Bienvenue sur la page Bible Espoir. Nous sommes heureux de vous y accueillir et nous vous souhaitons une bonne écoute.
Bienvenue à tous. Nous sommes heureux de nous retrouver pour une nouvelle méditation sur les histoires de l'Évangile, l'histoire de Jésus. Et je vous propose que nous lisions, je vais citer tout simplement deux textes qui nous situent dans notre propos, dans notre sujet. Dans l'Évangile de Jean, c'est Jésus qui dit à ses disciples et à tout le monde d'ailleurs, au chapitre 4 et au verset 48, il dit ceci: « Si vous ne voyez des miracles et des prodiges, vous ne croyez pas. » Et puis un autre texte qui vient faire suite, dans Jean chapitre 12, verset 37, il est donné cette constatation: « Malgré tant de miracles que Jésus avait fait en leur présence, ils ne croyaient pas en lui. » Alors nous allons aborder tout simplement le propos du miracle événement. Alors je vais donc développer cette méditation en précisant certaines choses sur cette situation, ce phénomène étrange du miraculeux. Il y a une autre version qui nous dit ceci: « Serez-vous toujours incapable de croire si vous ne voyez pas des miracles et des choses extraordinaires ?» Voilà ce qu'il nous est tout simplement dit pour nous interpeller. « Si vous ne voyez pas des miracles et des choses extraordinaires, et vous ne croyez pas. » La vue et la foi, le vrai et le faux. Malgré tous les miracles que Jésus avait faits sous leurs yeux, ils ne croyaient pas en lui. Soyons sur nos gardes, la Bible nous prévient, qu'il y a miracle et miracle. Le surnaturel, l'extraordinaire, le stupéfiant, l'éblouissant. Et les hommes sont avides, finalement, de voir des choses là, étranges, des choses qui sortent de l'ordinaire. La Bible, sans équivoque, nous avertit de la dangerosité et nous alerte, comme en effet, des champignons vénéneux que l'on peut consommer au risque, peut-être d'une intoxication plus grave encore, d'en mourir. Comme en effet, nous alerte du vrai et du faux miracle, leur nature et contrefaçon d'apparence, leur aspect séduisant, trompeur, la fausse réalité à toxicité mortifère. Il y a trois recommandations qui nous sont données dans l'Évangile, par Jésus en particulier, dans Matthieu chapitre 7, où il nous est demandé, devant les fêtes, devant peut-être justement ce que nous ne comprenons pas, de reconnaître l'arbre à son fruit. Et un arbre, un bon arbre en bonne santé, produit de bons fruits. Le faux, c'est tout à fait le contraire. Ça, c'est la première recommandation. La deuxième recommandation, c'est faire la preuve d'authenticité et de quelle provenance qui, se déroule en coulisses. Dans 1 Jean chapitre 4 et verset 1er, il nous est simplement dit « examinez toutes choses » pour, en effet, en tirer la vérité de ce que vous voyez ou de ce que vous entendez. Et nous avons naturellement cette parole, et je retrouve ce passage dans 1 Jean chapitre, comme je vous ai dit, chapitre 4, où il est dit ceci: « N'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. » Et nous voyons que cette parole nous enseigne les trois natures d'inspiration miraculeuse. Le troisième point, c'est la reconnaissance des faiseurs de miracles. Il y a naturellement une origine humaine, il y a une origine divine et une origine maligne, c'est-à-dire l'homme, Dieu et le malin, l'adversaire, le diable, tout simplement. À travers des agents que sont les guérisseurs, les magiciens, les astrologues, etc. Et puis, il y a naturellement un troisième point qui est à souligner, c'est de développer le discernement ou la perspicacité qui, quelque part, ne sont que des émotions du sentimentalisme, nos peurs, les douleurs et la souffrance, la superstition et autres ressentis à travers des séductions, la fascination. Et nous avons en effet, nous pourrions un antidote, c'est la prière, demander à Dieu ce que lui en pense de telle ou telle situation étrange ou étrangère, et la parole de Dieu, la Bible, l'Évangile, pour que nous puissions apporter une vérification et savoir à quoi nous avons affaire. La tentation du miraculeux diabolique, introduite dans le monde, et nous avons naturellement des sources pour cela dans le livre de la Genèse, la tentation du miraculeux, ténébreux de l'occulte, qui contrefait le miracle qui vient de Dieu, en quête d'une démangeaison de spectaculaire chez les hommes, de connaître l'avenir qui nous est dévoilé, la puissance et le pouvoir, ou même peut-être la popularité pour ceux qui exercent ce genre d'actes magiques. Les trois tentations de Jésus au désert nous parlent. Un besoin naturel impérieux, c'est-à-dire la faim. Quand le diable s'approche de Jésus et lui demande de changer des pierres en pain. Il y a naturellement dans la deuxième tentation, c'est l'orgueil et la domination du monde, être puissant, avoir le pouvoir sur ceci et cela, la richesse, enfin toutes sortes de choses. Alors nous abordons naturellement cette question, mais que signifie tenter Dieu ? Tenter Dieu, c'est mettre Dieu à l'épreuve, c'est le tester pour savoir si véritablement, il est Dieu et s'il est capable de faire ce que nous ne pouvons pas faire, ce que les hommes ne peuvent pas, faire. La foi, les croyances, l'occulto-religieux, le mysticisme, tout cela, fait partie d'un monde que nous avons besoin de connaître, que nous avons besoin de connaître pour nous en prémunir. Il y a d'abord la tentation, qui est une proposition diabolique du miraculeux. Les actes d'éclat du miraculeux, à travers soit les abus et la témérité, les motivations honnêtes ou malhonnêtes qui déterminent nos motivations. Il y a ensuite le monde de l'occulte qui génère des signes miraculeux et contrefait la puissance divine, sorte de concurrence des guérisseurs, charlatans en tout genre, et qui rentre finalement en conflit avec ce que Dieu nous annonce de sa parole, ce que Dieu nous révèle par son esprit dans notre esprit, et qui fait que, quelque part, les gens vivent dans une certaine ignorance de ce monde de l'occulte et tombent dans les pièges, dans tous les pièges qui peuvent se présenter. Tentation, le monde de l'occulte qui génère des signes miraculeux, la fascination, que l'on peut appeler aussi l'envoûtement, quête de spectaculaire du mystérieux, la curiosité malsaine de rechercher ce monde-là, ces choses qui sont finalement au-delà de notre portée, mais qui, quelque part, peut avoir des incidences extrêmement dangereuses sur notre vie, sur la vie de notre âme, sur la vie de nos pensées, et de faire de nous des prisonniers. L'exploitation des émotions et des sentiments également, des douleurs et la souffrance qui rendent les gens malheureux en quête d'une délivrance, d'une libération pour ne plus souffrir. Les peurs et les angoisses, c'est-à-dire le côté de l'âme, où véritablement nous avons besoin là d'un affranchissement, d'une liberté. La recherche de révélations pour l'avenir, c'est ce que l'on appelle tout simplement l'astrologie, qui ouvre sur l'occulto-religieux et la superstition idolâtre. Et puis il y a également un autre point, c'est « Enquête de spectaculaire » comme nous l'avons dit tout à l'heure, ou « Miracle événement ». C'est le titre de notre message que nous avons déjà annoncé. Et puis une chose qui est aussi importante, c'est la recherche pour nous défendre, pour nous en prémunir, c'est la victoire et la gloire de Dieu envers et contre tout et prioritairement, et non la gloire de l'homme, quels que soient ses pouvoirs apparents. J'aimerais tout simplement ajouter ceci, la fascination du miraculeux sur les foules. Nous avons un exemple qui est très probant. C'est dans le livre des Actes, et j'aimerais lire le texte, hein, parce qu'il va nous servir de ce qui se passait, de ce qui s'est passé du temps de l'Évangile, du temps de l'Église première, de l'Église primitive. Il nous est dit ce texte, je vais lire quelques mots. Philippe, qui était un disciple, étant descendu dans la ville de Samarie, y prêcha le Christ. Première chose, c'est qu'il annonce la version juste, la version vraie des choses. Il prêcha Jésus, parce que tout est centré sur Jésus-Christ, celui qui est sauveur, celui qui délivre les hommes, et celui qui les éclaire sur les réalités d'un autre monde qui nous environne. Il nous est simplement rappelé, les foules tout entières étaient attentives à ce que disait Philippe lorsqu'elles apprirent et virent les miracles que Philippe faisait. Car les esprits impurs sortirent de plusieurs démoniaques en poussant de grands cris, et beaucoup de paralytiques et de boiteux furent guéris. C'est-à-dire qu'il s'agit de la guérison divine qui est en effet consécutive à la foi que fait naître le message évangélique. Et à ce moment-là, il nous est dit dans le texte qu'il y eut une grande foule, une grande joie dans cette ville, la joie de la délivrance, la joie de la vérité. Il y avait auparavant dans la ville un homme nommé Simon. Ça, c'est le côté, l'interface, nous pouvons dire, Philippe, serviteur de Dieu, Simon, serviteur, l'occulte. Il y avait auparavant, donc, dans la ville, un homme nommé Simon, qui se donnant lui-même pour un personnage important, parce que, finalement, il prétendait exercer la magie, certainement qu'il l'exerçait, et il provoquait l'étonnement du peuple de Samarie. Une chose qui est certaine, c'est que la véritable spiritualité, elle émerveille, mais la fausse spiritualité, là, étonne. Et c'est bien la différence que je voudrais faire. Il nous est dit qu'il provoquait l'étonnement du peuple de Samarie. Allons un peu plus loin. Tous, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, c'est-à-dire la majorité, finalement, de cette foule, écoutaient Simon attentivement et disaient, puisqu'il se faisait toute une gloire, ce Simon, d'avoir un pouvoir que les autres n'avaient pas, celui-ci est la puissance de Dieu, la confusion est déjà là, la puissance du Dieu, celle qu'on appelle la grande, et tous l'écoutaient attentivement parce qu'il y avait longtemps, parce qu'il les avait longtemps étonnés par ses actes de magie. Mais nous voyons qu'il y a un renversement dans la situation. Mais quand ils eurent cru à Philippe, quand ils ont vu Philippe, au nom de Jésus-Christ, en prêchant l'Évangile, en priant pour les malades, en annonçant finalement cette bonne nouvelle, nous voyons cette bonne nouvelle du royaume de Dieu et du nom de Jésus-Christ, hommes et femmes se firent baptiser. Et nous voyons que, en effet, voilà le rapport qui nous est fait dans Actes chapitre 8 que vous pourrez relire. Et nous voyons qu'il y a là, à travers cet homme, à travers ses fêtes, à travers ses actes de magie, de divination et tout ce que vous voulez, l'instrument du miracle trompeur. Et les conséquences sont toujours néfastes. Et nous avons besoin encore aujourd'hui dans notre monde, dans notre époque, de savoir faire la différence entre la vérité et l'erreur, entre la vérité et le mensonge, entre des actes spectaculaires, des actes étonnants, des actes qui sont véritablement, qui sortent de la réalité de notre monde naturel, des conséquences néfastes. Et nous avons, et nous reprenons, ces paroles, ces quelques paroles, et Jésus dira, « Si vous ne voyez de miracles, vous ne croyez pas, parce que vos yeux sont aveugles. » Et nous savons que le problème de l'occultisme, c'est d'aveugler les yeux physiques, mais aussi les yeux du cœur. C'est de développer le scepticisme, parce que le mensonge fait un voile, à la fois développement du scepticisme, qui produit l'incrédulité, où les gens ont cette propension à croire tout simplement ce qui est faux et à rejeter ce qui est vrai. En amenant naturellement le doute sur Dieu et ce qu'il dit en prévision, Et nous voyons qu'il y a cette observation que nous pouvons faire, parce que ce n'est pas le miracle qui donne la foi, mais c'est le contraire précisément. Ce n'est pas le miracle qui donne la foi, mais la foi selon la vérité que produit le message de l'Évangile dans nos cœurs, eh bien produit le miracle. Alors je répète, ce n'est pas le miracle qui donne la foi, mais la foi selon la vérité produit le miracle. Le faux miracle dégénère en idolâtrie fanatique. C'est ce que nous trouvons dans quelques textes du Nouveau Testament, où les gens deviennent fous à ce moment-là. Le faux miracle dégénère en idolâtrie, en fascination, et crée la passivité, c'est-à-dire qu'ils ne sont plus capables, en effet, d'avoir la capacité, ils n'ont plus la capacité de pouvoir réagir. Et cela neutralise l'immunité de la conscience des hommes et de la raison des hommes qui captive la liberté de juger librement. Et cela, on peut l'appeler fascination, envoûtement, illuminisme. L'examen est absolument nécessaire. Nous avons besoin d'éprouver toute chose. Nous avons besoin de vérifier toute chose, de savoir si ça vient de Dieu, si ça vient de l'homme, avec ses fantaisies, avec son orgueil, avec cette soif de pouvoir, ou si ça vient tout simplement du malin. Mais nous savons que le monde étant gisant dans le péché, dans le mal, le diable s'en sert pour tromper les hommes. L'examen donc est absolument nécessaire. Et n'oublions jamais que le grand manipulateur contrefait les œuvres pures de Dieu. Alors que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur nous donne sa grâce. Nous avons évoqué qu'il y a dans une précédente étude miracle, il y a miracle et miracle. Et là, nous avons parlé aujourd'hui tout simplement du miracle événement, mais vu sous l'angle ce monde qui étonne les hommes, de ce monde qui fascine les hommes, et qui, cherchant Dieu, peut-être même sincèrement, tombe entre eux sous la domination et sous l'hégémonie de l'adversaire. Alors que Dieu nous donne sa grâce, soyons prudents, ne touchons jamais à l'astrologie, à l'occultisme, à tout ce qui est véritablement, là, ce qui fait là le monde dans lequel nous sommes, où les gens, dans leur misère, dans leur souffrance, dans leurs maux, dans toutes sortes, peut-être d'intérêt, cherche du mauvais côté. Alors que Dieu vous bénisse, que Dieu vous donne sa grâce. Et n'oubliez pas que vous pouvez retrouver tous ces textes, que vous pouvez retrouver toutes ces paroles en lisant la Bible et en demandant à Dieu qu'il vous éclaire sur ce que vous lisez, parce que l'Écriture, c'est une lumière. Jésus-Christ nous a dit qu'il était lui-même la lumière, et c'est lui qui fait les œuvres grandioses, mais nous avons besoin véritablement de savoir, le vrai du faux. Alors, que Dieu vous bénisse et je vous remercie pour votre intérêt et la parole que vous avez, que vous entendez. Merci à tous et que le Seigneur vous bénisse.